Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans Une Heure en Série, deuxième saison et déjà le 10e épisode. Une Heure en Série, l'émission qui décrypte et analyse toute l'actualité des séries télé, toutes chaînes confondues. Et ce soir, nous parlerons Mossad et jungle urbaine dans Téhéran sur Apple TV, mariage meurtrier et enquête spirituelle dans Possession sur Canal+, et enfin Serial Killer et Europe de l'Est dans Géométrie de la Mort sur Arte.
Une Heure en Série. Xavier Le Herpeur.
Avec pour embellir ce programme très sombre ce soir, les solaires, les divines, Isabelle Danel de bandapart.fr. Bonjour Isabelle.
Bonsoir Xavier.
Et Christine Haas, bien sûr. Bonsoir Christine.
Bonsoir Xavier, bonsoir.
Et le non moins lumineux Benoît Lagan, bien sûr, que l'on entend dans le 5-7 le vendredi, 5-7 de Mathilde Munoz, bien sûr, et que l'on peut voir dans Télé Matin. Alors, pas de courrier cette semaine, mais un appel aux auditeurs, car lors de l'émission du 26 décembre, on s'y prend un tout petit peu à l'avance, nous allons dévoiler un nouveau top 10. L'année dernière, c'était les meilleures séries de tous les temps. Cette année, nous allons évoquer les séries honteuses, avec des petits guillemets, bien évidemment.
Bah oui, bien sûr.
C'est-à-dire celles que l'on regarde en douce sans vraiment le dire à personne. Alors, si vous êtes un stakhanoviste de Maggie, si vous ne loupez jamais un épisode de la 800e rediffusion d'Arabesque, ou si vous connaissez par cœur les enquêtes de Derrick, eh bien, votez, sortez du placard. Voilà, assumez-vous. Vous aimez, comme nous, certaines séries un petit peu honteuses. Nous allons décerner donc le top 10 des séries honteuses que l'on pourrait sous-titrer « Ne dites pas à ma mère ni à Télérama que je regarde trois petits points de suspension ». Voilà. Donc allez-y, lâchez-vous, osez affirmer votre amour pour Angela Lansbury, par exemple, ou pour Ma sorcière bien-aimée, je dis n'importe quoi. Même pour Manimal, bien sûr, pour Sam et Sally, enfin bon, bref, ne vous interdisez rien. Donc vous pouvez nous écrire, il y aura un top 5 des chroniqueurs et un top 5 des auditeurs, donc 5 plus 5, 10. Assumé. Ça fera 10 séries comme ça que nous analyserons, que nous décortirons et nous nous amuserons bien évidemment. Pour voter, c'est très simple, vous allez sur le site internet de notre émission et à la rubrique courrier, ben, vous nous envoyez 2, 3, 4, 5 séries qui pour vous correspondent à la définition de la série honteuse, mais qu'on ne saurait évidemment manquer sous aucun prétexte. C'est noté ?
C'est noté.
Vous avez un peu les chroniqueurs, les chroniqueuses ? Ça va nous changer.
Alors, j'ai déjà moins de 10 séries là.
Premier débat ce soir consacré à Téhéran, diffusé sur la chaîne Apple TV, une série israélienne de 8 épisodes disponible donc sur la chaîne Apple. Tamar, une jeune agente du Mossad, débarque à Téhéran pour une mission censée ne prendre que quelques heures. Mais rien ne se passe, évidemment, comme prévu. Et la jeune femme, de confession juive mais née en Iran, se retrouve seule et piégée dans la capitale, livrée à elle-même. Débute alors une double course contre la montre. Il lui faut d'abord tenter de sauver sa peau, car démasquée, elle risque à tout moment d'être capturée par les services secrets iraniens. Et il est aussi impératif qu'elle puisse mener à bien sa mission et empêcher un conflit nucléaire entre son pays et l'Iran.
Il y a 47 minutes. Stay in communication with me. Do what you have to do. I will be home by tomorrow afternoon.
یه اتفاق بعد افتاده.
یه مامور موساد وارد ایران شده.
اسرائیلیات میخوان یه کار بزرگ بکنن.
The coast is clear. Take care of the package.
I'm in. Copy that.
همین امروز میخوام گیرش بندازم.
اینو پیدا کن.
The cops are here. You have to get out.
I'm almost done.
یه خیلیت پریتا فیزیت.
Entre Jason Bourne et James Bond version féminine, une série d'espionnage signée Moshe Zonder, le créateur de l'excellente série Fauda, mise en scène par Daniel Sirkin. Elle réunit devant la caméra Niamh Sultan dans le rôle de la belle espionne et Sean Tube que l'on avait vu dans la série Homeland. Benoît, à propos de Téhéran sur Apple TV.
Alors, c'est une série doudou qu'on peut regarder comme ça, une fois par semaine, en attendant l'épisode, parce qu'on est content de passer 45 minutes dans un univers complètement improbable et irréaliste.
D'accord, voilà. C'est votre définition du doudou.
Non, oui. Mais du doudou de la série qu'on a envie de regarder, mais oui, de la série qu'on a envie de regarder, non. Ou peut-être de la série honteuse, je sais pas. Non, en fait, c'est une série agréable à suivre, c'est à ce niveau-là que je veux dire doudou, dans le sens où c'est agréable à suivre parce qu'il y a suffisamment de rebondissements, on est dans la série d'espionnage somme toute assez classique, et on prend plaisir comme on lit une BD et qu'on est content de tourner les pages de la BD.
Là, nous sommes d'accord.
C'est, je disais, improbable et complètement irréaliste, c'est un petit peu Alias à Téhéran, Voilà, pour vous donner un exemple.
Cela.
Et sauf que quand on voit que ça vient d'Israël, que c'est une série créée par les Israéliens, et en particulier par ceux qui ont fait, par celui qui a fait Faouda, c'est là qu'on est un petit peu, qu'on regrette un petit peu.
Parce le degré d'exigence est un peu plus élevé.
Oui, parce que une série à Téhéran, quelle bonne idée! Enfin, moi, je me souviens de ce film Téhéran, qui jouait avec le genre, ce polar de Nader Mayoun, qui était fabuleux dans le sens où le film acceptait d'être à la fois une plongée dans Téhéran et un vrai film de genre. Et moi, j'espérais ça, en fait, de la part des Israéliens, c'est de nous plonger vraiment dans cette ville et de nous raconter quelque chose du monde. Or, ça nous raconte pas grand-chose. Les opposants au régime, bon, sont des étudiants, ça d'accord. En fait, que des choses que l'on sait, au fond, et ça ne va pas plus loin. Mais voilà, c'est agréablement mis en scène, il y a du suspense, on a envie de voir la suite. Alors, on aurait pu le faire, finalement, ailleurs qu'à Téhéran et ça aurait été la même chose.
Oui, moi, je trouve quand même que les rebondissements sont un peu à la Truelle, qu'il y a des personnages qu'on suit pendant le premier épisode et qui disparaissent, on se demande vraiment pourquoi ils ont été écrits, comme ce couple de jeunes Israéliens qui prend l'avion, un avion qui est obligé d'atterrir à Téhéran, on les met beaucoup en avant et puis après on n'en fait plus rien, donc j'ai l'impression quand même d'une série pas très très bien écrite. Alors il faut dire qu'à l'heure où nous enregistrons, nous avons vu 5 ou 6 épisodes, et donc pas encore la série dans son intégralité, peut-être va il encore y avoir des surprises.
Oui, voilà.
Mais vu comment elles sont amenées jusque-là, on commence à être un petit
on
peu découragé. Isabelle Danel, vous n'aviez pas l'air tout à fait d'accord avec Benoît.
Ah si, je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord sur le fond, pas sur la forme. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas une série doudou. Et puis, par ailleurs, je me suis beaucoup ennuyée. C'est-à-dire que les rebondissements, oui, ok, mais moi, je trouve que la réalisation est extrêmement plate et que du coup, bon, voilà, ça fonctionne très, très moyennement. En plus, en dehors du fait qu'elle est extrêmement jolie, moi, je suis restée totalement insensible à l'actrice principale. Elle a deux expressions et quoi qu'il lui arrive, et il lui arrive énormément de choses qui généreraient beaucoup plus que deux expressions, à mon sens. Et donc, c'est un vrai souci parce
qu'elle
est
attendez, c'est une agent du Mossad, ça va, elle sait prendre sur elle quand même. Hein. Elle va pas faire les courses non plus.
Donc, par ailleurs, il y a Sean Toub, qui est un acteur, lui, formidable, qui est très écrit pour que, justement, on comprenne les tenants et les aboutissants, et je ne vais rien révéler. Donc, c'est un méchant, mais avec des bémols, donc lui est beaucoup plus intéressant. Alors, là où je suis pas d'accord, c'est que je trouve quand même un tout petit intérêt, en tout cas, moi, je me suis raccrochée à ça, c'est la vie des jeunes athéans dont vous avez parlé, Benoît. Leur besoin de liberté, de fête, leur capacité à transgresser, tout ça, je trouve ça plutôt bien montré. Les moments où on est dans des espèces de rêves, où il y a un monde fou, où ça vend de la drogue, etc. J'ai trouvé, là, pour
sauf
le
qu'on
coup,
l'a déjà vu,
assez bien réalisé. Oui, mais
c'est
peut-être
un peu générique,
pas
c'est vrai.
Autant, peut-être pas autant en Iran, avec cette jeunesse-là, avec cette transgression-là, etc. Moi, j'avais, peut-être j'ai pas vu les mêmes choses que vous, j'avais l'impression de pas l'avoir vu comme ça, à ce point étalé, je dirais. Par ailleurs, ça nous parle effectivement des expatriés iraniens en Israël et ça dit des choses sur le déchirement que c'est, etc. Donc ça, ok.
Y compris des familles, hein, puisque c'est
familles
le cas justement de l'héroïne.
Et de gens qui restent d'un côté ou de l'autre. Donc ça, voilà, oui. Ça m'intéresse. Tout le reste, tout ce qui est en plus, c'est un procès d'intention et ils disent le contraire, mais tout ce qui est de l'ordre du féminin, pour moi, me semble tellement volontariste qu'on dirait qu'au dernier moment, ils avaient un personnage masculin, et qu'au dernier moment, ils ont dit « Oh là là, faut rentrer dans les quotas, on va mettre une femme, elle va être aqueuse, etc. etc. » Et ça, moi, ça me gêne profondément. Alors, c'est un procès d'intention. J'ai lu les interviews du créateur de la série qui dit exactement le contraire. Néanmoins, moi, c'est vraiment ce que je ressens, et je trouve vraiment cette série presque ratée, quoi.
Je suis pas loin d'être d'accord avec vous, chère Christine.
Ben,
vous
oui,
qui avez été agent secret,
oui, moi, comme l'actrice, j'ai pris des cours intensifs de farsi, des cours de Krav Maga, tout ça. Donc je suis prête, je suis quand même. C'est vrai que la loi du genre veut que la réalité iranienne soit un peu laissée de côté au profit du thriller. Alors il y a les alliés, et les obstacles. Hein, en gros, d'ailleurs les auteurs le disent, ce n'est pas un documentaire, ce qui fait qu'on est dans un cadre assez balisé de l'intrigue d'espionnage avec ses codes, ses figures de style, ses cliffhangers à la fin de chaque épisode. Bon, je trouve ça assez efficace, assez excitant, même si c'est pas du tout inventif et totalement improbable. Mais ce qui compte ici, finalement, c'est le cheminement de l'héroïne, qui va redécouvrir ses racines. On n'oublie pas qu'elle est née en Iran et qu'elle a été élevée en Israël. Donc, il y a sa langue maternelle. Et puis, il y a certaines scènes qui vont mettre en scène une tante qui a choisi de rester en Iran, un père qui a choisi d'émigrer en Israël. Et tout ça retranscrit quand même de manière assez émouvante une crise identitaire
c'est
et
vrai.
Politique. Alors, on a deux pays qui sont chers à l'héroïne, qui sont en guerre. La série est assez critique du gouvernement en place, mais elle essaye de maintenir quand même un certain équilibre avec une prise en compte de l'aspect humain. On va dire que derrière les scènes d'action, se dessine la complexité un petit peu de la vie à Téhéran. Alors, on a les pendaisons qui sont un spectacle courant, mais le directeur du contre-espionnage local est quand même un rien intentionné.
Donc, c'est pas faux.
Ils essayent, dans la mesure du possible, d'être un peu subtils. Mais en même temps, on sent que c'est quand même...
Non, mais on peut être tortionnaire et délicat. Hein.
Voilà, tortionnaire et délicat. C'est vrai qu'on sent quand même que la série est une production israélo-américaine, avec parfois des maladresses, un regard un petit peu biaisé. Par exemple, la tante qui considère que sa fille a mal tourné quand elle a noué des liens avec les étudiants musulmans, elle fait implicitement l'amalgame entre l'islam et l'ennemi. C'est un petit peu compliqué, là.
Ben oui, c'est un petit peu le problème de la série. C'est autant Fauda avait vraiment réussi, encore une fois, sur un registre de genre, à introspecter le conflit israélo-palestinien avec, je trouve, beaucoup de complexité et beaucoup d'équilibre. Là, on a l'impression que Téhéran, vu de l'extérieur et vu d'Israël, est un peu réduit à un champ de clichés et d'idées toutes faites.
Oui, parce que c'est tout le problème, je pense, de la série, parce que les Israéliens, ils savent faire ça, justement, des séries qui sont à la fois psychologiquement profondes, qui nous parlent
complexe,
du monde,
tout complète, fut,
voilà, et qui sont complètement dans le divertissement. Et Fauda, c'est ça. Et donc, moi, je m'attendais exactement à ça avec Téhéran. Or, il n'y a que la partie divertissante, au fond, qui prend le pas sur tout le reste, là.
Elle est à la fois prudente et bizarrement manichéenne. Isabelle, vraiment, un tout dernier mot.
Juste, c'est une série pour l'Occident, clairement. Ben, quoi. C'est, ouais. Voilà, c'est ça le problème.
Merci beaucoup. Nous avons parlé de Téhéran, donc diffusé sur Apple TV. Nous en sommes au 6e ou 7e épisode. Il y en aura 8 au total.
T'en sais rien, oh, t'en sais rien. Jusqu'où tiendra le mirage, l'illusion que tout va bien. Mais t'en sais rien, oh, t'en sais rien. Tu souris comme une image, est-ce au diable ou au saint. Le faux comme une flèche qu'on décoche, blesse ceux qui tenteraient une approche. Mais jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit rien. Tu en joues. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit rien. Tout va. Rien ne se voit. Tout va. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit rien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit, d'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien.
Jusqu'ici tout va bien, c'est un tout petit peu ce qui pourrait résumer l'émission aussi, interprétée par Clou. Clou a été découverte à l'occasion d'un radio-crochet de France Inter, et oui messieurs, dames, et remarquée avec sa reprise des Gauloises Bleues sur l'album Hommage à Yves Simon. Clou bricole une pop légère et acidulée qui sied parfaitement à cette jeune Parisienne qui tire son pseudo de son enfance, une enfance où à force de faire sans cesse le clown, ses parents l'avaient surnommé Clou. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien est un titre extrait de son album Orage qui vient de sortir. Elle sera en concert au Café de la Danse à Paris le 19 novembre prochain. C'est une bonne nouvelle. Hélas, c'est complet. C'est une mauvaise nouvelle.
France Inter. Une heure en série.
Un petit conseil littéraire en forme de trait d'union entre Téhéran dont nous venons de parler et la prochaine série, Possession, puisque je vous invite à découvrir Unité 8200 de Dove Alphon, paru aux éditions Folio Policier, un thriller sous haute tension israélien qui ravira tous les amateurs du genre, genre exécuté ici avec une virtuosité et un sens du timing auquel il est impossible d'échapper. Tout commence par un avion en provenant d'Israël qui atterrit à Roissy. À sa sortie, l'un des passagers est récupéré par une superbe blonde, on ne le reverra évidemment plus. Point d'allumage d'une mèche incendiaire qui, de Paris à Tel Aviv, va convoquer les services secrets de Benjamin Netanyahou, dont la fameuse unité 8200, qui est citée d'ailleurs à un moment dans la série Téhéran. L'une de ses responsables, la très intransigeante Oriane Talmor, un colonel israélien qui se trouvait également à bord, un débonnaire commissaire de police français et quelques espions chinois et leur très inventif tueur à gages, un polar urbain dans les rues de notre capitale, se déroulant en quasi-temps réel et qui se joue des sempiternelles ficelles du roman noir et politique pour tisser le maillage d'un suspense réglé au cordeau. Un jeu macabre et sardonique qui ressemble à une partie de billard à trois bandes où chaque geste et rebondissement ont des répercussions inattendues de part et d'autre de la Méditerranée. Manière pour cet auteur ayant grandi entre la France et l'Israël et ancien officier des services secrets israéliens et actuellement directeur de la publication de Libération, de relancer une action digne des meilleures séries israéliennes, le livre oscillant entre John le Carré et un 24 heures chrono, savoureux paradigme de littérature d'espionnage, Unité 8200 de Dove Alphon, paru chez Folio Policier. Je viens de l'évoquer, deuxième débat consacré à la série franco-israélienne Possession, 6 épisodes diffusés sur Canal+, à partir du lundi 2 novembre. Nous sommes en Israël, tout commence par un mariage, pas des plus heureux visiblement, puisque la mère de la mariée menace de ne pas rester pour la cérémonie. Elle finit par céder et tous se pressent pour célébrer l'union de Nathalie Ederan. Mais au moment de couper la pièce montée, les lumières s'éteignent, laissant l'assemblée dans une inquiétante obscurité. Lorsque la lumière revient, le jeune marié baigne dans son sang. Son épouse tient le couteau, tout la désigne comme la coupable. Il faut dire que sa ligne de défense est pour la moins ténue. Elle prétend ne se rappeler de rien. En tant que ressortissante française, elle reçoit l'aide de Karim Taleb, jeune attaché au consul français, qui ne semble pas croire en l'évidence des faits. Il va tenter de mener son enquête, mais pour cela, il va lui falloir affronter la défiance de la famille de Nathalie, la superstition religieuse et le passé trouble de la belle suspecte.
Yeah, okay. Maybe it's just a wedding, huh?
C'est Rachel.
On a une ressortissante qui a été arrêtée cette nuit.
C'est quoi, une affaire de drogue?
Non, son mari a été assassiné en plein mariage.
Si tu nous expliques pourquoi tu as fait ça, on pourra te dire.
C'est pas moi.
Quelqu'un t'a fait peur?
Je peux pas la laisser comme ça. Et personne dans sa famille n'est capable de la protéger.
James Bond en personne, c'est fini.
Possession, un thriller aux apparences trompeuses et teinté de spirituel, signé Shahar Magan, le créateur israélien de Sirène, et écrit en collaboration avec Valérie Zenati, scénariste au cinéma de la mélodie et d'une bouteille à la mer. Alors côté casting, c'est, en ce qui me concerne, un rêve, puisque l'on retrouve Nadia Tereskevitch dans le rôle de Nathalie, entourée par trois remarquables actrices que j'aime d'amour et qui sont Judith Chemla, Dominique Valadier et Ariane Ascaride. Et dans le rôle de Karim, le toujours impeccable, parfait, Reda Kateb. Isabelle, vous qui partagez comme moi une passion pour Ariane Ascaride.
Et pour les acteurs que vous avez cités.
Il y a Tchéki Gario, excellent casting.
Oui, je trouve ça extrêmement bien fait et tout à fait réussi. C'est entre saga familiale, drame fantastique, polar classique. Ça plonge dans différents genres, ça propose une multitude de pistes et ça nous happe alors que ça nous perd également. Quoi.
C'est vrai.
Il y a deux enquêtes parallèles, hein, l'enquête menée par Reda Kateb et l'enquête menée par Esti, cette femme policier qui elle aussi est absolument formidable.
Qui grignote tout le temps, elle est très drôle, ils ont trouvé une caractéristique pour ce personnage-là entre autres que je trouve assez savoureuse.
Oui, il y a la scène où elle va sur le lieu du crime et donc il s'est passé dans un restaurant et où elle dit qu'elle est en train de déjeuner à son chef et en fait elle arrive et elle prend des dragées du mariage et elle suce les dragées du mariage en interrogeant un témoin, c'est vraiment extraordinaire. Et donc cette actrice, on l'avait vue dans Our Boys, c'est Noah Kohler, elle est vraiment formidable. Donc côté casting, évidemment vous l'avez dit, je suis obligée de le redire, Dominique Valadier, Ariane Ascaride, ces deux actrices dingues et géniales et génialement dingues. Donc voilà, tout
elles
ça.
Elles sont un peu frappées dans la série.
Elles sont vraiment, vraiment frappées. Donc voilà, ces deux personnages justement cultivent la nostalgie de Djerba où elles ont grandi et semblent rester bloquées sur un certain nombre de traditions ancestrales et de croyances tenaces. C'est une série constamment intéressante, intrigante, parce qu'elle parle d'aujourd'hui et d'hier, des expatriés juifs franco-tunisiens en Israël et forcément du conflit israélo-arabe, même s'il s'agit ici d'un mariage entre un Israélien et une Française d'origine tunisienne. Ça parle du choc des générations entre croyances des mères et modernité des filles et d'une certaine irréconciliabilité. J'ai réussi à le dire du premier coup. Ça parle de possession, d'envoûtement, de désir, de sexe, de violence faite aux femmes, d'inceste, de paroles données, de paroles reprises, de mariage désiré, de mariage arrangé. Ça parle de dette, de pardon, d'impossibilité d'oublier tout à fait qui on est, d'où on vient. Parce que vaste sujet, qu'est-ce que le communautarisme ? Est-ce que c'est de la folie pure ou un attachement viscéral et nécessaire à sa culture, à ses racines ? Voilà, la mise en scène est élégante, parfaite. La femme
très
policier,
belle on
l'a
espace
dit,
voilà, d'Israël.
Les idées de caractérisation des personnages, comme on l'a dit pour la femme policier, sont vraies pour tous les personnages. C'est archaïque, c'est magique, c'est assez effrayant. Et les esprits pragmatiques se font balader d'un bout à l'autre de la série. J'ai un tout petit bémol sur le dernier épisode qui annonce une deuxième saison et qui se permet de réouvrir des portes qu'elle avait fermées. Et je trouve ça un tout petit peu gênant pour ma part.
Merci beaucoup, Isabelle. J'aime beaucoup cette idée qu'effectivement la série vous happe tout en vous perdant, ce qui n'est pas désagréable d'ailleurs comme sensation en tant que spectateur, Benoît.
Alors globalement, d'accord avec tout ce que vient de dire Isabelle, tout le sujet de la série, c'est qui possède qui possède quoi. Or, c'est là que moi je mettrais peut-être le bémol, c'est que c'est une série qui se passe quand même en Israël.
Possession est au pluriel.
Possession est au pluriel, que donc sur le plan de tout ce qui concerne les rapports familiaux, qui possède qui au sein de la famille, des rapports entre elle, la mariée, et son mari qui meurt, donc dès le premier épisode, entre Reda Kateb, qui est, semble-t-il, possédé par cette jeune femme. Tout ça est très bien mené, hein, sauf qu'on est quand même dans un territoire où la question du territoire, qui possède le territoire, n'est jamais, quasiment jamais évoquée. Et moi, ça me choque un petit peu. Alors oui, par bribes, on va le voir. Bien évidemment que symboliquement, toutes ces questions sont là. Hein, mais sauf que ça aurait mérité, vu qu'on est dans une série et qu'on peut te permettre d'être ample, ça aurait mérité justement d'être aussi abordé de façon peut-être plus frontale. Voilà. Après, c'est juste un petit bémol parce que effectivement, toutes ces questions sont là et que la fin de la série est une porte ouverte vers une suite et que donc on peut espérer que Possession au pluriel, ce soit comme le font ces grandes séries anthologiques, c'est-à-dire prendre le thème et le développer de façon différente dans chaque saison, alors peut-être que le prolongement se fera sur un terrain plus géopolitique.
Alors Isabelle veut vous répondre, mais elle va attendre que Christine se soit exprimée sur Possession. Oui, voilà, Christine.
Oui, c'est vrai que c'est pas une série ouvertement politique. La Possession, c'est en fait le moteur d'une quête individuelle de Nathalie et de Karim. Le corps de Nathalie est un peu au cœur de l'affaire, il est détaillé en gros plans. On voit la bouche qui tremble, le regard de biche, le dos mutilé, les bleus sur les cuisses, tout ça pour tenter de lui arracher physiquement ses secrets. Il est question du désir d'amour fou en premier et de la peur aussi de l'intime que ça peut déclencher. Et pour moi, j'ai surtout pensé, puisque les auteurs le revendiquent, à l'influence de Hitchcock. On pense effectivement d'abord aussi à Rosemary's Baby, un petit peu Polanski, et on pense beaucoup à Hitchcock, c'est-à-dire que face à cette histoire complètement folle, très intrigante, on s'identifie au personnage de Karim, donc l'attaché consul en costume, incarné par Reda Kateb.
Avec une tête de chien battu.
Avec une tête de chien battu. Et donc Reda Kateb, c'est James Stewart dans Sueur froide, quoi. Il erre dans un univers paranoïaque et infernal où la blonde Nathalie semble possédée par un esprit, où il est ballotté par des événements sur lesquels il n'a absolument aucun contrôle. Il est face à une histoire d'une invraisemblance vertigineuse, où la chair est obsédante et où bizarrement le surnaturel devient vraisemblable. En fait, plus il avance, plus il perd ses repères, plus le mystère s'épaissit, plus on est hypnotisé. Moi, je dois dire que je suis restée captivée jusqu'au bout. On parle des apparences qui sont trompeuses, de l'incapacité de se fier à ses proches. Il y a énormément de choses sur l'intime. La fin, évidemment, une ouverture un peu surprenante. Mais franchement, je le recommande chaudement.
qui, effectivement, Isabelle l'a signalé, très bien mise en scène, un principe de scope qui embrasse à la fois les grands espaces et en même temps une intimité extrêmement violentée et furieuse. Isabelle, vous vouliez répondre tout à l'heure à Benoît, vous avez 35 secondes pour le faire, pas l'une de plus.
Oui, juste sur le territoire, je veux pas me faire spécialiste d'Israël, mais simplement ça se passe à Beersheba, et Beersheba c'est vraiment un endroit où justement c'est un peu plus harmonieux que nulle part ailleurs en Israël, entre les Arabes et les Israéliens, donc voilà, il y a une vraie communauté et tout ça, et par ailleurs je trouve que ce que vous reprocher Benoît, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve que dans le langage, tout ce qui est le territoire, il y est. C'est-à-dire qu'on a l'hébreu, on a l'arabe, on a le français, on a l'anglais, et on a tout ça qui cohabite et qui se bouffe un peu le nez de temps à autre. Et notamment, il y a une scène très belle où la jeune femme parle en français et un peu en hébreu, et la policière traduit à son collègue qui ne parle qu'hébreu, et à un moment donné, il y a une demande sur quel mot existe ou non en hébreu, et ça c'est très intéressant. Donc je trouve que vous êtes un peu sévère sur le côté politique qui pour moi existe.
Oui, mais je ne vous ai pas donné la parole, mais
je suis d'accord avec ce qui est globalement vient d'être dit. C'est juste un bémol, et juste le fait que Reda Kateb soit travaille pour le consulat et soit justement dans la diplomatie révèle aussi quelque chose, sauf que du coup on n'en joue pas assez à mon goût.
Oui, bon. Mais la question lui est posée à un moment donné. D'où vous venez? Il dit je suis français. Et la mère insiste en disant d'où? Et il dit d'Algérie. Mais il est français avant tout. Donc tout y est.
Et si je vous dis que c'est fini, là c'est vous fini. Allez m'écouter. Donc voilà, si vous aimez les séries un tout petit peu atypiques, si vous aimez Dominique Valadi, Ariane Ascaride et Reda Kateb comme nous, vous allez adorer Possession sur Canal+, à partir du 2 novembre. Je n'ai aucune autorité sur vous.
Mais si the table about to turn. The table about to turn. The table about to turn. Flipping through my timeline, trying to get my mind right. My city cried out, I got to cool down, but I'm under pressure. Looking with my Crisco, look at what my fists go. A renegade when I'm in a rage. I got to cool down, but I'm under pressure. I keep my hands dirty, my mind clean. Got a new agenda, put a new dream. I'm kicking out the old regime. Liberation, elevation, education. America, you a lie. But the whole world about to testify. I said the whole world about to testify. And the table's about to, the table's about to turn. Flipping through my timeline, trying to get my mind right. My city cried out, I got to cool down, but I'm under pressure. Looking with my Crisco, look at what my fists go. A renegade when I'm in a rage. I got to cool down, but I'm under pressure. I keep my hands dirty, my mind clean. Got a new agenda, with a new dream. I'm kicking out the old regime. Liberation, elevation, education. America, you a lie. But the whole world about to testify. I said the whole world about to testify. And the table's about to, the table's about to turn. Kitchen, then you should do the dishes. Burning down plantations. Ain't no parking, I don't need no validation. I light sage when I'm in a rage. I don't need permission, I got my intuition. Hands dirty, mind clean. A different mission with a new dream. We kicking out the old regime. Liberation, elevation, education. I said America, use a lie. But the whole world about to testify. I said the whole world. Table. Now we gon' watch the table. To turn, turn, the table got to turn. It's got to turn. Waited too long.
Turntables par Janelle Monae. Elle est de retour avec ce titre engagé, écrit et composé pour le documentaire All In The Fight for Democracy, que l'on peut voir actuellement sur Amazon Prime, et qui est un film consacré au droit de vote aux États-Unis et qui dénonce les difficultés de certains citoyens d'accéder à ce droit. C'est donc particulièrement d'actualité. Chanteuse, autrice, comédienne, mannequin et activiste, Janelle Monae convoque depuis ses débuts la mémoire de la musique noire américaine, mélangeant avec pertinence la soul, le R&B et la pulsation jazz. Fer de lance de toutes les luttes militantes, les femmes, les blacks et la communauté LGBT, elle est une voix démocratique qui marque et qui s'engage.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est le moment de l'effet miroir de Benoît Lagan, où l'actualité racontée par une série, un épisode, un personnage ou une scène culte. Et pour ce nouvel épisode de l'effet miroir, Saint Benoît Lagan, le cul béni de Une heure en série, ça vous va très bien, hein, ça, ouais. Je sais pas qui l'a écrit, mais profite du week-end de la Toussaint pour revenir sur la série d'Arte, ainsi soit-il, centrée sur le parcours de 5 jeunes séminaristes, série qui est actuellement disponible sur le site de la chaîne.
Oui, exactement. C'est au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et des séries, Xavier. C'est effectivement
Saint Xavier.
C'est effectivement redisponible sur arte.tv. L'occasion donc d'évoquer cette excellente série française qui tentait il y a 8 ans tout rond de raconter les coulisses de l'Église à travers le parcours de 5 jeunes séminaristes. Alors, on peut dire que la série a globalement enthousiasmé la critique, en particulier pour son énorme travail de documentation et le soin particulier à raconter l'Église à tous les niveaux. D'un côté, en suivant l'apprentissage donc de ces jeunes séminaristes confrontés aux doutes, et de notre côté, à une dimension plus politique, comme en témoigne dans la première saison ses échos à la campagne d'élection des évêques, et où la série prend alors des airs de Borgen à l'évêché.
Je pense qu'il est important que nous puissions centrer notre campagne sur un thème fort qui associera l'action de la conférence des évêques aux aspects les plus positifs des attentes du public.
On a beaucoup travaillé depuis 5 ans. L'assainissement des finances, les mesures énergiques pour lutter contre les affaires de mœurs au sein de l'appareil, il faut montrer tout ça.
Il faut faire simple, frappant, un seul thème. Vous dites finances, j'entends déficitaire. Vous dites mœurs, j'entends pédophilie. Il faut nous recentrer sur notre cœur d'activité.
La messe.
Les pauvres. Exactement. Les pauvres. La misère humaine, voilà à quoi nous sommes vraiment bons.
Et une série qui manquait pas d'humour, et avec notamment Michel Duchossois dans la première saison.
Et de lucidité voilà. Aussi.
Elle est extrêmement bien interprétée, écrite et réalisée. Cette série, on la doit à Vincent Poimiro et David Elkaïm au scénario, Rodolphe Tissot à la réalisation et Bruno Nahon à la production. 4 bons samaritains ou brebis galeuses, c'est selon le point de vue, puisque aussi réussie soit-elle, la série n'a pas fait que des heureux chez les catholiques. D'ailleurs, si la série a reçu en 2012 un prix au Festival international du film catholique de Rome, Mirabile Dictu, sous le haut patronage du Conseil pontifical pour la culture, eh bien le prix lui a été ensuite retiré.
Mais oui, parce qu'il faut dire que dans mon souvenir, la presse catholique française avait été plutôt divisée.
Oui, alors on a adoré à Télérama, mais ça fait longtemps que les catholiques ont fui la rédaction. Et à La Croix ou à La Vie catholique, on était, semble-t-il, extrêmement partagés. Certains catholiques ont reproché à la série de montrer une vision trop triste de la vie de ces jeunes séminaristes, tout en acceptant les codes malgré tout de la fiction. D'autres, plus remontés, se sont même lancés dans une véritable guerre numérique des religions en créant un site, ainsi soit-il.com, dans lequel, par représailles, ils divulgachaient la fin de la saison et commentaient la série et les situations trop pleines pour eux de clichés. Étonnante et somme toute assez classique réaction d'un milieu qui ne se reconnaît pas dans le miroir que lui tend la fiction, il faut dire avec le recul que la série avait tout pour gêner les tenants d'un catholicisme traditionnel plutôt à droite de l'échiquier. La série embrassant en effet plutôt la vision des chrétiens de gauche que l'on entend assez peu, le sympathique père Fromanger, directeur du séminaire, incarné dans la série par Jean-Luc Bideau, est clairement plus proche du pape François que de Benoît XVI. Or, quand Ainsi soit-il débarque sur les écrans, c'est le second Benoît XVI qui est encore en place. Le plus simple, chrétien ou pas, est d'aller voir ou revoir donc la série pour vous rendre compte surtout de l'originalité et des qualités indéniables de cette série. Une série d'utilité publique qui démontre surtout que tenter de regarder sa société et son temps par le prisme du séminaire est loin d'être une mauvaise idée. Au contraire, la série questionne et doute, comme tout bon chrétien, ma foi.
Frère Benoît, vous avez ma bénédiction. Merci beaucoup. On rappelle donc que les 3 saisons, donc les 24 épisode de Ainsi soit-il, sont actuellement disponibles sur Arte TV. Si vous ne l'avez pas vu, découvrez cette série absolument formidable. Et vous êtes bien sur France Inter dans Une Heure en Série avec ce soir Isabelle Danel, Christine Haas et Benoît Lagan. Ils sont particulièrement en forme. Ils vont le rester pour le troisième débat consacré à Géométrie de la Mort, une série polonaise de 10 épisodes disponible sur Arte TV depuis le 29 octobre et ce pendant un an, mais qui sera également diffusée sur la chaîne franco-allemande du 5 au 19 novembre. À Odessa, Varsovie et Prague, trois cadavres ou morceaux de corps sont retrouvés dans des lieux incongrus. Une barque dérivant sur la mer Noire, un bras amputé dans le coffre d'une voiture, une main dans la chambre froide d'un hôtel de luxe, autant d'affaires glauques et sanglantes qui pourraient avoir un lien, car outre les similitudes du mode opératoire, toutes les victimes s'avèrent être de jolies et jeunes femmes. Divers flics mènent l'enquête dans leur pays, des policiers souvent hors sentier battus et neurasthéniques qui vont l'un après l'autre s'enfoncer dans les ténèbres des agissements de meurtriers sadiques et se perdre dans le labyrinthe d'une enquête transfrontalière et anxiogène.
Il y a des traces du bateau sur le sable.
Comment t'as fait pour retrouver l'endroit où il a été mis à l'eau ?
La force et la direction du vent, la force et la direction des courants et les déclarations des témoins. Il fallait bien commencer quelque part, alors j'ai commencé par là. Ils ont dû utiliser de l'essence. Tout a été carbonisé, il ne reste plus rien. À part ça.
Tu penses toujours que c'est l'œuvre de la mafia locale ?
Ouais, pourquoi pas.
Ce serait la première fois qu'ils feraient un coup pareil.
Et une première fois à tout. Je vous le dirai quand on aura identifié le corps.
Ça va prendre combien de temps ?
On recense les disparitions dans le district, ensuite on cherchera au niveau régional.
Et ce talon, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'ils l'ont amené ici. Qu'ils l'ont tué ici et qu'ils l'ont jeté à la mer ici. Ils veulent qu'on ait aucun doute.
Géométrie de la mort, une série policière signée d'Arliusz Jablonski, auteur au cinéma d'un documentaire intitulé Le photographe et interprété. Alors là, je me lance. Malgorzata Bukowska.
Bravo.
Presque, hein ?
Bravo.
Karel Rodan et Sergueï Strelnikov.
Parfait.
J'aimerais des applaudissements.
Ah, bravo.
Merci.
Bravo, bravo.
Derrière la mécanique d'un thriller urbain et très sombre, se profile la radiographie d'une Europe de l'Est, contemporaine, héritière d'un passé dont elle ne s'est pas encore remise, désormais confrontée aux oligarques d'aujourd'hui et traversée par la corruption et la fracture entre les nouveaux pouvoirs et une population qui doit encore et toujours se débrouiller pour survivre. Christine, à propos de Géométrie de la mort.
Oui, alors on est face à une triple enquête concernant trois blondes découpées que nos fins limiers tente de recoller dans le bon sens, tout en se demandant qui est le taré qui leur a en plus coupé le bras droit. Bon, sans être trop perspicace, il me semble que le coupable clignote de partout, mais l'idée, c'est quand même de nous balader dans les zones grises de l'Europe de l'Est. Mafia, corruption, clientélisme, on va des hautes sphères du pouvoir au bas fond. La commissaire polonaise fait sa lessive chez la fille enceinte du commissaire tchèque. L'enquêteur ukrainien, toujours ganté de mitaines en cuir noir, les accueille ensuite à l'aéroport d'Odessa. On passe sans arrêt d'une langue à l'autre, d'une ville à l'autre, entre eux ils parlent anglais, et après que tout le monde se soit reniflé, il commence à y avoir un petit peu de suspense, de la tension, du danger, quelques cascades, des scènes d'action très efficaces et même quelques scènes assez violentes de tabassage, faut quand même le dire. Bon, en fait, plus qu'à l'enquête, on s'intéresse véritablement à la personnalité mystérieuse et attachante des trois commissaires, marquée par leur histoire familiale, leur passé, leurs relations tendues avec la hiérarchie, les liens avec leurs trois assistants sont également des personnages extrêmement intrigants et inhabituels. Alors, la série repose aussi pour beaucoup sur les balades en territoire assez peu exploré. Odessa, notamment, pour moi, offre un décor naturel absolument somptueux, très bien exploité, à travers des belles scènes de nuit, par exemple un homme qui rentre chez lui dans une calèche, une course-poursuite en hors-bord avec la ville en arrière-plan, une scène de folie où un homme seul danse dans un chalet en pleine forêt. Il y a beaucoup de scènes comme ça, très belles, des extérieurs très atmosphériques, que ce soit les bois de bouleau en dehors de Varsovie, les petites rues de Prague, le bord de mer ukrainien, le tout porté par une très belle bande-son. Et on a aussi des retournements scénaristiques extrêmement inattendus, jusqu'à la résolution un peu frustrante, qui laisse espérer une deuxième saison et une nouvelle collaboration entre ces trois personnages qui ont encore beaucoup de secrets à livrer.
Merci beaucoup Christine. On manque un peu de temps, donc rapidement, Benoît.
Oui, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, il faut regarder cette série pour le trio de flics et leurs assistants, parce que c'est vraiment là qu'est le sel de cette série. On avait évoqué il y a quelque temps Kidnapping sur une autre coproduction de Police à travers le
l'Europe.
Sur la trampoline.
Voilà. Et où je trouvais que finalement, l'association des polices fonctionnait de façon sympathique, ça marchait bien, le polar était intéressant, mais justement, les liens qui unissaient ces personnages étaient un petit peu limites. Du coup, là, il faut vraiment regarder pour ça. Et puis, pour ce clin d'œil, peut-être aussi, dès les premiers plans, on voit les films de Kieslowski qui apparaissent dans le salon. Et ça, c'est assez rigolo parce que le producteur a été assistant de Kieslowski et il a le même sens que lui, du petit détail, des petits gestes. Ces flics, ils renversent des choses et ils font tomber toujours des objets et faire tomber des objets, ça a aussi un sens pour décrire un personnage et je trouve que la série le fait très bien.
Merci Benoît. Même contrainte Isabelle, désolé, vous avez deux petites minutes.
Bah, tout a été dit, simplement sur Kieslowski, je suis totalement d'accord et je voulais ajouter une chose, c'est que on reconnaît en tout cas moi, alors, et avec beaucoup
on va le rappeler,
d'émotions.
Du décalogue, de la double vie d'ironique.
Et on reconnaît avec beaucoup d'émotions Miroslav Baka, qui était un jeune homme en 1988, et c'était fatal, qui est un quinquagénaire un peu bedonnant aujourd'hui, qui joue le commissaire de Marie, la polonaise, l'inspectrice polonaise, et qui est vraiment, voilà, ce sont des retrouvailles. Et je suis d'accord tout à fait sur l'analyse concernant Kieslowski et ses objets que je voulais aussi signaler. Et faut pas avoir peur de ce côté transfrontalier où on a l'impression que comme avec Tunnel, la série d'Anno suédoise, on va avoir des remakes à l'appel. Alors je sais pas, mexicano, canado, américain, etc. Faut vraiment se laisser porter par ça parce que c'est vrai que ces personnages, tout en ayant des clichés du mec qui va prendre sa retraite, des deux lonesome cowboys avec des passés familiaux compliqués, etc. Je les trouve très, très intéressants et les acteurs sont formidables. Ils ont des tronches, ils ont des présences, ils sont vraiment extraordinaires.
Alors juste, puisqu'il nous reste une poignée de secondes, Christine a raison, le coupable, ça tilte un tout petit peu rapidement quand même.
Oui.
On est d'accord
enfin,
que c'est un peu dommage.
Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a tout ce réseau de personnages libidineux, monstrueux, etc., et qui fait partie aussi
de possibilités.
Oui, et on se dit presque qu'ils le savent, parce que si on regarde bien le générique, il y a même un indice dans le générique.
Oui, absolument.
Alors regardez bien le générique, mais regardez bien les 10 épisodes de Géométrie de la mort sur Arte TV depuis le 29 octobre et qui sera diffusé sur la chaîne franco-allemande du 5 au 19 novembre.
This is what you get when you mess with love.
De Radiohead, un titre extrait de l'album OK Computer, sorti en 1997, inspiré de 1984 de George Orwell. La chanson dénonçait le totalitarisme de la surveillance de masse. 23 ans plus tard, le titre n'a hélas rien perdu de son acuité et de son engagement.
France Inter, une heure en série.
Et c'est l'heure du plateau télé. La semaine dernière, nous évoquions The Undoing, la nouvelle série de David Ekeley. Et Isabelle, vous revenez sur un autre chef-d'œuvre de David Ekeley, qui est Ally McBeal.
Oui, parce que vous avez parlé sans moi de The Undoing. Alors donc, voilà. Je me suis surtout dit que c'était un peu de légèreté. Eh ben si, je suis jalouse, je vous le dis. C'était un peu de légèreté dans ce monde de brutes, replongé dans une série doudou. Car Benoît, c'est ça, une série doudou, c'est pas du tout
Mais si, une série d'espionnage aussi, ça peut être une série doudou.
Retrouvons Ally McBeal, ses consoeurs et ses confrères du barreau de Boston, tous plus loufoques et frappadingues les uns que les autres, ses amoureux successifs, regrettés, craquants et conduits, ou pères de famille. Retrouvons cette série pleine de charme, d'ironie, de rapidité, avec ses toilettes mixtes propices à toutes les confidences, ses chorégraphies sur Barry White,
ça vous manque, ça,
ses
guest-stars,
ses guest-stars luxueuses et ses scènes finales au bar du coin façon karaoké avec la chanteuse Vonda Shepard. Ally McBeal, ses 5 saisons et 112 épisodes, de David et Kelly, comme vous l'avez signalé. Et c'est une série scintillante dans l'air du temps de son époque et toujours d'actualité, qui parle des hommes, des femmes, de séduction, de racisme, de grossophobie, d'homophobie, de parité, d'inclusion, de tolérance, et j'en passe. C'est une série à laquelle on pardonne tout, y compris les désarrois capillaires de la saison 3, notamment chez l'actrice Calista Flockhart, et surtout chez le beau brun Gilles Bellows, devenu blond platine à mon grand désarroi. C'est Ally McBeal, ça consolait de beaucoup de choses à l'époque et ça fonctionne encore et toujours.
Ally McBeal sur Prime et sur...
Et sur MyCanal.
Merci beaucoup Isabelle. Quant à moi cette semaine, pour mon plateau télé, je vous recommande la diffusion de la 31e saison des Simpsons sur Disney+. Indémodable, indécrottable, jaune devant et marrant derrière, comme l'avait un jour remarquablement écrit le quotidien Libération, les Simpsons restent à ce jour et depuis 32 saison, l'ultime raison de croire que l'Amérique n'a pas encore sombré dans l'obscurantisme intellectuel. La 31e saison donc est actuellement disponible en exclusivité sur Disney+, saison inédite qui fut diffusée l'an dernier aux USA et qui permet de constater que le fiel de cette série d'animation n'est pas près d'être tari. Il faut dire qu'avec l'élection de Trump et son possible retour aux manettes du pays, il y a de quoi nourrir, et ce pour longtemps encore, le mauvais esprit politique et polémique de son créateur Matt Groening. Et puisque je viens d'évoquer un scénario horrifique avec la possible réélection de Trump, je vous recommande tout particulièrement l'épisode spécial Halloween ce week-end, où les Simpsons, comme chaque année depuis la création du show, jouent à se faire peur et nous avec. En particulier, mêler l'intrigue où, mort accidentellement, Homer doit trouver un corps pour se réincarner, corps qui puisse à nouveau séduire Marge. Mais il n'est pas évident de remplacer le physique de rêve d'Homer, ses poignées d'amour et son haleine de pierre fadasse. Bref, une saison à haute tenue en déconne pure et qui permet de comprendre de façon hilarante la souvent déconcertante American Way of Life. Les Simpsons sur Disney+. Et maintenant, Christine, vous allez nous parler d'Atoufim, formidable série israélienne, disponible dans son intégralité sur Arte TV.
Oui, les deux saisons de Atoufim sont disponibles. C'est une série israélienne qui a été créée en 2010 par Gideon Raff, hein, que nous avions, nous, découverte en 2013, soit 2 ans après les débuts de Homeland, qui était son remake américain, également créé par Gideon Raff avec le succès qu'on sait. Et entre-temps, Atoufim a été désigné par le New York Times comme la meilleure série télévisée internationale de la décennie.
C'est vrai.
C'est dire si c'est bien.
On est d'accord.
Alors, elle commence par le retour au pays de 3 soldats israéliens qui ont été emprisonnés pendant 17 ans au Liban. Du premier ne rentrera que le corps. Autour des 2 autres, libérés à la suite de longues négociations, la paranoïa est entretenue par les services secrets qui les débriefent sans relâche, tandis que les épouses, les sœurs, les enfants sont bouleversés par ce changement soudain. Donc la narration va suivre leur douloureuse réintégration sous la forme de puzzles psychologiques nourris de flashbacks sur leur période de captivité. Et si les 2 séries sœurs se font parfois écho dans la thématique du retour des prisonniers de guerre, elles ont une identité distincte. Homeland joue sur le registre anxiogène du thriller paranoïaque. Brody revient en héros, mais avec la possibilité qu'il ait été retourné ou pas. Et Atoufim explore le retour des soldats sur un mode intimiste à travers le drame domestique de 3 familles. Ce sont des hommes brisés, atteints dans leur virilité et très loin de l'image du jeune soldat israélien triomphant, moins explosif que Homeland, plus chargé émotionnellement. Atoufim a posé des jalons importants sur le regard lucide et honnête que les Israéliens posent sur leur société.
Je suis tellement d'accord, ouais. J'ai bu vos paroles, je crois qu'on est tous quand même là-dessus. Ouais.
Complètement.
Unanime, Atoufim, donc disponible en intégrale sur Arte TV, 2 ou 3 saisons, j'ai oublié.
Deux,
c'est ça. Merci beaucoup, chère Christine. 1 heure en série, c'est fini. Sortez les mouchoirs, essayez de vous consoler, mais je sais que ça va être difficile. 1000 merci à vous, chère Isabelle Danel, Christine Haas et Benoît Lagan, d'y avoir participé. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir écouté. Ce soir, nous vous avons recommandé, ou pas, plutôt unanimement positif quand même, moi je ne vous reconnais pas, Téhéran sur Apple TV, Possession sur Canal+, et Géométrie de la mort sur Arte. La semaine prochaine, nous évoquerons Grand Écart, attention, Temple sur 13e rue et De Gaulle sur France 3. Là, je pense que c'est un des programmes quand même les plus éclectiques que nous aurions...
Un temple et un dieu.
Que nous avons eu. Merci. Demain à 20h, rendez-vous avec Jérôme Garcin et Le Masque et la Plume. 1 heure en série, une émission à réécouter en podcast et en rediffusion dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Il y a un site internet où vous pouvez désormais voter pour le fameux top 10 des séries honteuses, doudou régressives que vous adorez, que vous vénérez sans le dire à personne et que vous regardez sous la couette. Donc ce top 10, vous votez évidemment sur notre site. 1 heure en série a été réalisée cette semaine, comme toujours, par Marie-Annick Rimbaud, épaulée par David Le Prince. La programmation musicale signée Muriel Pérez, préparée cette semaine avec Amel Kaldi et Marie Mougin. Et à la technique ce soir, 2 garçons jeunes, Charles Leca et Antoine Cruchon, ce qui a fait un tout petit peu baisser l'âge moyen quand même de ce plateau. Voilà. Après les informations, nous retrouverons Eric et Quentin pour le Grand Urbain en compagnie ce soir de Green Montana.